Annès, nous prions plus spécialement pour tous les défunts. Chacun, nous sommes venus avec dans nos cœurs tous ceux de nos familles, nos amis, que nous portons plus spécialement. Et les lectures qui nous sont proposées aujourd'hui nous remettent devant cette foi en la résurrection. Non seulement la résurrection de Jésus, mais la résurrection de chacun d'entre nous, sans nous en faire d'image. Et la première lecture, c'est 500 ans avant Jésus, Isaïe pressent déjà cette promesse de résurrection. Il la raconte sous forme d'un festin, d'un banquet, comme le banquet de l'Eucharistie préfigure. Sans nous en faire d'image, il dit « Dieu fera disparaître la mort pour toujours. Le Seigneur Dieu essuiera les larmes sur tous les visages. » Et Paul, à différents endroits de ses lettres, notamment dans le passage qu'on vient d'entendre, affirme cette foi en la résurrection. Car si le Christ a connu la mort, puis la vie, c'est pour devenir le Seigneur des morts et des vivants. Il a cette expression « Tout changera, nous comparaîtrons devant le tribunal de Dieu. » C'est quoi le tribunal de Dieu? Il y a des gens qui aiment attirer un Dieu d'amour par la peur de l'enfer. Si vous regardez Jésus dans l'Évangile, le tribunal de Dieu, ce n'est pas la peur. Le tribunal de Dieu, c'est sa vie donnée par amour pour tous. C'est quand il juge, il nous rend juste. Il ne nous met pas de côté. Et il y a cette phrase très forte, « Je suis venu pour qu'aucun ne se perde ». Le premier à qui Jésus dit « Aujourd'hui même, tu seras dans mon paradis », c'est un criminel. La première qui est témoin de la résurrection, c'est une prostituée. Le premier des apôtres, c'est quelqu'un qui la renié et qui n'a pas eu peur de douter aussi, et qui était souvent un peu au travers du chemin, Pierre. Et celui dont on vient de lire la lettre, il persécutait les chrétiens. Le tribunal de Dieu, rien à voir avec les tribunaux humains. C'est la vie donnée par amour de Dieu pour tous, pour chacun, chacune d'entre nous. C'est cet amour sans limite. Alors, on a écouté aussi l'Évangile. C'est au cours du dernier repas. Jésus est à quelques heures de sa mort. Il vient de laver les pieds de ses apôtres, de dire qu'il n'y a pas de plus grand commandement que de donner sa, de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Et il dit que votre cœur ne soit pas bouleversé. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Quand Jésus nous dit que votre cœur ne soit pas bouleversé, chacun, chacune, quand on perd un proche, notre cœur, il est plus que bouleversé. Et ce n'est pas manquer de foi que de pleurer. Quand je regarde Jésus, quand il voit la veuve qui enterre son fils unique, il pleure, il est bouleversé au plus profond de ses entrailles. Et son enfant pleure, il s'approche. Quand il est avec Marthe et Marie, le tombeau de Lazare, de la même façon, il est bouleversé. Il pleure. Quand Jésus dit, dans ce dernier repas, dans la maison de mon père, il y a de nombreuses demeures, sinon, vous aurais-je dit, je pars vous préparer une place. Je ne peux pas et je ne dois pas vous faire une image de la résurrection. Ce n'est pas possible. Je ne vais pas imaginer les personnes qui me regardent, qui me surveillent, je ne peux plus faire aucune bêtise. De la même façon qu'un bébé dans le ventre de sa maman ne peut pas se faire l'image du monde où il va naître, je ne peux pas me faire l'image de la résurrection. Si le corps est dans une tombe, je sais que le corps commence en poussière. Si on a choisi la crémation, il est ensemble. Mais j'ai confiance dans la promesse de Jésus de la résurrection. Et il nous dit, Dans la maison de mon père, il y a de nombreuses œuvres. Dans le cœur de Dieu, il y a place pour chacun, chacune. Dans le cœur de Dieu, il nous aime chacun, chacune, avec nos qualités, avec aussi ce qui est blessé en nous. Et j'aime bien la réaction de Thomas. Il a marché avec Jésus pendant 3 ans, il le connaît bien, il l'a écouté tout le temps. Et Jésus lui dit, pour aller où je vais, vous savez le chemin. Et Thomas dit, mais on ne sait même pas où tu vas, comment on saurait le chemin? J'aime bien parce qu'il nous ressemble très fort. Hein, croire, ce n'est pas tout savoir. Et la réponse de Jésus, elle tient dans ces quelques mots que tu nous as donnés. Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin, c'est Jésus, c'est sa force, c'est sa vie donnée. C'est aussi son exemple. Hein, c'est sa manière d'aimer son père, d'aimer tout homme, toute femme, de pardonner. Quand nous méditons sur la résurrection, quand nous percevons cet amour sans limite de Dieu, c'est pas un appel, ah ben le Père a dit que l'enfer, c'est par là qu'il allait parler. On peut tout faire, il nous aime quoi qu'il arrive, c'est bon. Mais c'est pas ça. Si je me découvre aimé à l'infini par quelqu'un, qu'est-ce que je fais? Toute ma vie, elle est un merci à ce Dieu. Toute ma vie, elle est une réponse. Finalement, c'est bien plus exigeant de nous faire contempler le Dieu qui nous est donné, un Dieu d'amour, plutôt qu'un Dieu de la peur. Chacun, chacune, ici, nous sommes dans des moments différents par rapport à des deuils. Il y en a qui ont enterré leur maman la semaine dernière, un d'autres plus longtemps avant. Alors on a chacun des sentiments différents. Il y a peut-être la tristesse. Je vous ai rappelé que Jésus pleure et qu'on n'a pas à avoir peur de pleurer. Dans certaines cultures, on dit que si on pleure, ça empêche les défunts d'aller au ciel. Je ne sais pas s'ils ont été voir comment ça se passait pour y aller, mais. C'est la culture, mais ce n'est pas l'évangile. Il arrive aussi, et hier, on a, chaque année, c'est, je crois que c'est le diacre Patrick Bergeret qui a lancé cette coutume que les prêtres de Champigny soient dans les cimetières des mourants. C'est plein de dialogues extraordinaires. Avec les gens qui ont prévu, qui savaient, avec d'autres qui sont là et qui nous appellent. Il y avait une dame, je l'ai mariée il y a 30 ans, puis j'ai enterré son mari il y a quelques semaines. Et sa grande question, c'est pourquoi il fait ça? Pourquoi à tel moment? Et il ne manque pas de gens pour avoir plein d'explications. Dieu avait besoin de lui, alors à cet enfant, il a besoin d'un ange. Ou c'est pour lui éviter un plus grand mal, je ne sais pas quoi. Et je garde dans mon cœur, je suis sûr que je le radote, vous l'avez déjà entendu, mais je vais le raconter encore. Quand j'étais séminariste, sur un quartier comme ici, au Rayette, je sors de l'église après la messe, il y avait la foule, et il y a une enfant de ma taille qui s'avance là sur moi et qui dit « Où est mon père ?» Pourquoi ? Alors elle n'était pas baptisée, pas baptisée. Elle n'était pas à la messe, elle n'est pas saignée dans l'église. Parce que le prêtre l'a enterré mardi et il a dit que Dieu l'avait rappelé à lui. Ça veut dire quoi ça ? C'est l'expression qui est dans tous les livres. Je ne l'utilise plus jamais. Alors je réponds, est-ce que tu as des copains? Est-ce que tu ne voudrais pas qu'on cherche la réponse ensemble? Et tous les mardis, après 8 heures de cours, c'était en 5e, ils avaient de nouveaux copains. À la fin, il y avait 20 grands jeunes. Enfin, gamin, excusez-moi pour les 5e. 20 grands jeunes. Et on s'est mis à lire tous les évangiles de Marc. On marquait. Que fait Jésus? Il enseigne, il est baptisé, etc. Il le guérit. On avait une colonne à parole de vie. Et toi, il marche, etc. Et je leur demande au bout d'un moment, qu'est-ce que vous avez aimé de Jésus? Alors il y a une petite Annelise qui dit, ah moi j'aime bien quand il redonne la vie à la fille de Jésus, parce que j'aimerais bien qu'il fasse pareil pour mon père. Les catéchistes vont répondre quoi? Je suis d'abord tu. plus maigre. La fille de Jaïr, à mon avis, elle est remorte. Parce que je connais personne qui a 2000 ans. Un Jésus ne nous fait pas échapper à la condition humaine. Je lui dis, bon, c'est bien, mais il faut dire autre chose encore. Alors j'en dis, mais si Marc nous raconte ça, je ne sais pas comment ça s'est passé, qu'est-ce qu'il veut dire de Jésus? Il nous répond, ah ben, il veut dire que Jésus, c'est celui qui donne la vie. Et je demande, mais si Jésus est ressuscité, ce que je crois, mais je ne peux pas m'en faire d'image, où est-ce que tu vois Jésus qui nous donne la vie aujourd'hui? Et là, il y a une petite Sabine qui prend la parole. Sabine, elle habitait l'immeuble en face de celui que j'habitais, avec d'autres églises. Et à chaque fois qu'elle m'entendait, j'allais frapper à la porte des parents pour dire, est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous pouvez signer l'autorisation? Et les parents m'ont dit, on était à la jeunesse ouvrière chrétienne, mais italien, mais on a tout laissé. Notre fille, elle est très très réservée, on ne sait rien de ce qu'elle fait. Et depuis qu'elle va dans cette équipe, elle est transformée. Elle rit, elle parle. Elle voudrait qu'on prie, elle voudrait qu'on ait la Bible. Et Sabine a dit, la joie que j'ai eue à venir ici, c'était ça. Et j'ai fait un commentaire, et on a lu tout le récit de l'agonie, de la passion. J'avais chacun, chacune maintenant, vous écrivez une chose que vous gardez de Jésus. Alors Martine écrit, c'est qu'elle avait demandé à son père, elle dit, Jésus, je t'aime bien, parce que ce soir j'ai découvert que, bien que tu es le Fils de Dieu, tu as souffert de tristesse et d'angoisse. Et je demande le baptême et j'arrête. C'est pas la manière de dire que je demande le baptême, mais elle voulait dire, j'ai ce qu'il faut. J'ai compris que Jésus ne nous fait pas échapper à la condition humaine, que ce n'est pas lui qui entraîne la mort. Elle fait partie de notre condition humaine et Jésus ne l'a pas évité. Et il est celui qui nous ouvre à la vie, il est celui aussi qui a senti tout ce que nous pouvons ressentir. Honnêtement, Martine, c'était mon professeur de théologie. Ça m'a marqué beaucoup. Alors chacun, chacune, on a des sentiments comme ça, mais pour moi, c'est pas de l'autre. Il y a très beau texte aussi. Pourquoi la souffrance? Je ne sais pas comment on arrive à la dépasser. Je ne sais pas pourquoi le malheur. Je ne sais pas qui on arrive à traverser. Je ne sais pas pourquoi la mort, mais je sais avec qui. C'est un très très beau texte. Passer du pourquoi au regard sur Jésus. Il y a peut-être un autre sentiment qu'on a dans nos cœurs quand on perd quelqu'un. C'est le merci. Sur le pourquoi, il y a aussi la révolte qui va beaucoup plus loin. Et quand on est complètement révolte, ça vaut le coup de regarder Jésus. Qu'est-ce qu'il dit sur la croix? Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? On peut tout dire ce qu'on a dans le cœur à Jésus. Il ne nous juge pas, il nous accueille. Mais il nous invite aussi à passer au merci. Ouais, dans un moment si vous, chacun, chacune, vous pouvez repenser à ce que vous portez dans votre cœur et chercher pourquoi être merci. Merci pour la vie que nous avons reçue. Merci pour l'amour que tu as donné. Merci pour la lumière que tu as donnée. Parfois, on a aussi besoin d'un autre mot, c'est le mot pardon. Il peut nous arriver, soit qu'on sent qu'on n'a pas été juste parce qu'à la fin, on découvre plus qui était pour nous, soit la personne qui nous quitte n'a pas été juste avec nous, parfois gravement. Et on ne va pas faire de ceux qui nous ont précédés des gens parfaits, ce n'est pas vrai et ce n'est pas juste. Je peux aussi donner le pardon et confier à Dieu. Il y a de mal, je te confie. Voilà, dans un instant de silence, chacun, chacune, nous remettons à Dieu tous ceux qui nous avons aidés, qui sont déjà auprès de lui. Et puis nous lui demandons l'Esprit Saint, la force de envie de vivre de cet amour, d'entendre, de prendre au sérieux cette phrase « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Il s'agit de nous de délire là-dessus, de prendre le bon chemin.